Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Nos émotions littéraires, un moment de débat sur les livres animé par les élèves de première S3 du lycée René Gosse. Bonjour Salomé.
Bonjour Alexis. Nous recevons aujourd'hui plusieurs invités pour parler de trois romans en compétition pour le prix Goncourt des lycéens 2016, qui sera attribué le 17 novembre à Rennes.
Pour commencer, nous allons parler du roman Chanson douce de Leïla Slimani, publié chez Actes Sud. Il a déjà obtenu le prix Goncourt. Je suis en compagnie de Madame Suzanne Carl.
Bonjour.
Amance.
Bonjour.
Et Corentin.
Bonjour.
Est-ce que l'un de vous pourrait, pour commencer, nous présenter ce livre, donc, s'il vous plaît?
Donc, c'est un livre qui va raconter l'histoire d'une famille qui cherche une nounou et qui en trouve une. Et ça commence avec la nounou a tué un des enfants. Et donc, au cours du livre, on va essayer de savoir pourquoi cette nounou qui semblait parfaite a-t-elle tué cet enfant.
Chanson douce, peut-il recevoir les louanges de ses lecteurs lycéens après celle des illustres membres du prix Goncourt? Corentin?
Donc, Chanson douce, je pense qu'il peut recevoir le prix des lycéens, même s'il y a d'autres livres qui ont aussi le potentiel de gagner ce prix. Parce que il y a d'autres livres que j'ai lus qui sont, dans lesquels on peut mieux s'identifier et qui sont peut-être simple à lire, même si Chanson douce a toutes les capacités pour...
Vous êtes d'accord, Amance?
Alors,
Suzanne, allez-y.
Pour ma part, en fait, je ne comprends pas pourquoi il a reçu le prix Goncourt. Alors, c'est un livre qui est bien écrit, certes, écrit de façon simple. C'est tiré d'un fait divers qui a eu lieu aux États-Unis et qui a été transféré dans une famille bourgeoise de la région parisienne. Alors, le thème, c'est la relation entre le maître et serviteur, ce qui avait été déjà exploité par pas mal d'écrivains au préalable. Le style est efficace, on parle au présent... Les situations sont décrites de façon intéressante, mais pour ma part, il est quand même assez simpliste, en quelque sorte. Je m'explique, c'est-à-dire que la famille dans laquelle est la nounou, c'est une famille bourgeoise, mais c'est des gens qui ont une « success story », entre guillemets, professionnelle, c'est-à-dire qu'ils réussissent bien, et on ne voit jamais leurs difficultés professionnelles. Alors, il me semble que dans la réalité, c'est plus complexe que ça. La dernière fois, on avait parlé aussi d'un fait divers qui avait été exploité par un écrivain, et là, je ne comprends pas pourquoi celui-là n'a pas eu le prix Goncourt. C'était Laetitia de Jablonka, qui, à propos d'un fait divers, de nature, qui est un meurtre, l'explication était beaucoup plus fouillée, on cherchait les raisons sociologiques, on fouillait le contexte. Dans celui-là, le contexte est complètement effacé. La réussite de ce livre, c'est de garder cette opacité à propos du personnage principal de la nounou, parce qu'on n'arrive pas à comprendre en fait pourquoi elle tue les enfants. Alors, jalousie peut-être, des raisons de difficultés économiques, où elle sent qu'elle va être obligée de partir de cette famille pour trouver du travail ailleurs. On est loin d'une explication valable pour tuer des enfants.
Non, je suis plutôt d'accord avec votre idée. On ne sait pas vraiment où et pourquoi la nounou tue ses enfants. On peut se demander si c'est parce qu'elle est jalouse qu'ils ont un avenir devant eux, alors qu'elle, on peut dire qu'elle a un peu loupé sa vie, elle a plus d'argent, son mari est mort, sa fille est partie. On peut se demander aussi, toute sa vie, elle a eu cette relation plutôt bien avec les enfants, mais c'était pas les siens. Donc on peut se demander si là, carrément, elle essayait pas de faire que ces enfants qu'elle garde deviennent les siens. Et que, vu que c'est impossible, elle les aurait tués parce qu'ils ne peuvent pas être ses enfants, elle. Après, pareil, c'est vrai que la nounou, on voit bien qu'elle a tous les problèmes qui peuvent arriver, lui arrivent dessus, alors que la famille, elle réussit bien, tout va bien, la mère évolue super bien dans son travail, pareil pour le père, enfin c'est un peu contrasté entre les deux entre les deux groupes de personnages, si on peut dire.
Vous avez tous les deux parlé des raisons qui auraient poussé la nounou à tuer ses deux enfants. À votre avis, Corentin, pourquoi la nounou aurait-elle tué ses deux enfants, alors qu'elle semblait les aimer beaucoup?
Alors, moi, je pense que, oui, donc, comme le disait Amance et Madame Carl, c'est parce que, c'est de la jalousie, c'est que, donc, cette nounou, quand elle voyait que ses parents, les parents réussissaient tout, que leurs enfants, ils étaient mieux que les siens, qu'ils avaient tout mieux qu'elle, elle a dû, je sais pas comment dire, mais... Je pense qu'au fond d'elle, elle était déjà un peu dérangée et que ça, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ça qui l'a amenée à tuer les enfants, c'est par jalousie.
Oui. Voilà. On voit aussi le fait qu'elle essaye de rentrer dans la famille au maximum. Elle veut que les parents aient un autre enfant à côté pour pouvoir aussi s'en occuper. Alors que les parents font leur maximum à ce moment-là pour qu'elle sorte de leur vie et qu'elle soit virée en quelque sorte. Alors qu'elle a des problèmes d'argent comme ça, donc on peut penser aussi que c'est dû à ça.
Vous avez beaucoup parlé de la nounou. À votre avis, qu'est-ce qu'il représentait vraiment ces enfants pour elle ?
C'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est qu'elle les prenait comme ses enfants à elle, en fait. Elle aurait voulu que ce soit les siens, et là, non, c'est pas les siens, c'est d'autres personnes.
En fait, je pense que ce que l'auteur démontre, quelque part, c'est les fossés qui existent entre des mondes sociaux différents. Et que, par exemple, le milieu bourgeois, entre guillemets, a beaucoup de mal à imaginer ce que ça peut être la difficulté d'un milieu social très faible, où on a très peu d'argent, où finalement on travaille au jour le jour, où les factures s'accumulent. Et pour un milieu bourgeois, c'est complexe de s'imaginer cette situation-là, ne l'ayant pas vécue. Je crois que c'est ça qu'elle arrive à décrire dans ce livre, en quelque sorte. Et c'est pour ça que le geste devient incompréhensible, puisqu'on lui trouve toutes les qualités à cette nounou. Elle est parfaite, elle emmène les enfants, elle leur raconte des histoires. Mais la famille a vraiment énormément de mal à réaliser ce que c'est que d'être au jour le jour. Ça, c'est une réalité qu'elle décrit très bien.
Depuis le début, vous parlez beaucoup de la famille, des parents, des difficultés que peuvent rencontrer les parents. Vous ne pensez pas que le sujet principal du livre, c'est réellement la nounou et ce qu'elle pourrait penser, ces actes qu'elle fait ?
Moi, je crois que c'est compliqué de parler seulement de la nounou et de ne pas parler de ce milieu-là social qui a besoin en fait de nounou pour garder les enfants. Parce qu'en fait, toutes les familles ont besoin de nounou. Enfin, beaucoup de familles, des gens qui travaillent, tout le monde travaille, les femmes travaillent, les hommes travaillent, ils ont besoin de quelqu'un pour garder les enfants. Si vous n'avez pas à votre disposition une crèche, évidemment, vous faites confiance à une tierce personne pour garder vos enfants. Et c'est un peu ce que je reproche au livre, c'est qu'il y a un aspect moral, en quelque sorte, c'est-à-dire les femmes, elles feraient mieux de rester à la maison, de garder leurs enfants, il y aurait moins de danger pour eux, et de ne pas faire confiance à une tierce personne. C'est ce qui me dérange, en fait, dans ce livre, quelque part.
Juste par rapport à ça, la peur de laisser ses enfants avec une nounou. J'ai vu sur Internet, je crois, que lorsqu'elle écrivait le livre, elle était à la recherche, elle aussi, d'une nounou. Et que dans ce livre, elle a écrit les peurs qu'elle pouvait avoir par rapport à cela.
Alors, je viens de recevoir un message d'un des lecteurs de Chansons douces. Donc je vais vous le lire et vous allez me dire ce que vous en pensez vous personnellement. Mais on n'a pas forcément besoin de savoir tous les détails. La curiosité mal placée est un sentiment naturel, mais justement, Leïla Slimani a trouvé un juste équilibre, le sous-entendu et le connoté. Alors qu'est-ce que vous en pensez personnellement ?
Ça dépend de qui on parle. Si on parle de la nounou, je pense qu'effectivement la description est réelle, puisque en fait c'est quelqu'un dont on n'en comprend pas tout à fait les raisons. Donc là, je trouve qu'elle réussit parfaitement à nous mettre dans une situation où on regarde quelqu'un de l'extérieur et on considère que la façon dont elle agit, on ne le comprend pas. Là où c'est moins vrai, semble-t-il, je pense que tu es peut-être d'accord, c'est pour les parents. Voilà. C'est surtout vers les parents ou des non-dits et autres, on aurait besoin d'un peu plus d'explications.
Et le personnage de la nounou est réel, mais les parents, ils sont, c'est des stéréotypes, on dirait.
Ça, des stéréotypes, tout à fait. Des stéréotypes de séries américaines où les gens réussissent, ils n'ont pas de difficultés de boulot, ils sont dans un monde imaginaire qui est loin du monde du travail, en fait.
Oui, pareil, ce qui m'a gênée dans le livre, c'est à la fin du livre. On a lu tout le livre pour savoir pourquoi et comment elle en arrivait là à tuer les enfants, la nounou. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur. On se serait vraiment attendu qu'il y ait un élément qui vienne tout chambouler, qui fasse qu'elle craque. Alors que là, on n'a pas vraiment d'élément déclencheur. On sait juste qu'elle amène les enfants dans la baignoire et qu'elle les tue. Mais on n'a pas vraiment de détails comme ça, alors qu'on s'attendait à un final plus détaillé et plus compréhensible quand on a lu tout le livre. Et la façon dont il a été écrit, on s'attendait vraiment à quelque chose je dirais.
Est-ce qu'au final, le seul objectif du livre, pour vous en tant que lecteur, c'était de connaître les raisons les raisons de la nounou d'avoir tué ses enfants, et qu'au final, c'est un sentiment de déception, au final, de ne pas connaître ces raisons-là?
Pour ma part, c'est pas ça qui me déçoit le plus. C'est la simplicité du décor, du contexte. Parce qu'en fait, on n'est jamais isolé d'un milieu, on n'est jamais isolé, on est dans une société donnée, dans un temps donné, et peut-être un acte majeur, comme celui de tuer des les enfants, il a d'autres raisons qu'une simple passage de folie, de passage à l'acte. Il y a des raisons plus vastes qui permettent d'expliquer cette chose incompréhensible vue de l'extérieur. Et là, me semble-t-il, le roman ne gomme complètement tout l'aspect contextuel.
Moi, je l'ai lu aussi pour connaître les personnages, la nounou, comme ça, mais... Pareil, on se retrouve dans le flou, en fait, à la fin. C'est ça, le problème. C'est que c'est flou, on va dire.
Corentin, est-ce que vous pensez également qu'on finit dans le flou, comme ça, ce livre?
Oui, je pense pareil, parce que dès le début, en fait, on nous raconte la fin. Du coup, on voudrait savoir comment on arrive à cette fin, et puis on nous dit pas vraiment, en fait. C'est un peu comme si on lit un livre, que du coup, on lit, et qu'il manque le milieu de tous les détails, en fait, et puis qu'on arrive à la fin d'un coup comme ça, alors que là c'est dans l'autre sens. C'est comme si on commence par la fin et que qu'on n'a pas les détails et qu'on arrive comme si on revenait au début, en fait.
Nous allons maintenant nous intéresser au roman Tropique de la violence de Natacha Apana, publié chez Gallimard, avec d'autres invités: Madame Nine Lahut.
Bonjour.
Lise.
Bonjour.
Roxane.
Bonjour.
Ce roman raconte l'histoire de Moïse, un enfant réfugié adopté par une femme qui l'élève jusqu'à son adolescence. Malheureusement, elle meurt subitement et Moïse se laisse entraîner par une bande d'adolescents livrés à eux-mêmes dans un bidonville de Mayotte. Pourquoi ce livre peut-il séduire un public de lycéens?
Déjà, le personnage principal, Moïse, c'est quelqu'un d'environ notre âge, donc on peut facilement s'identifier à lui. Et ce qu'il vit, ce qu'il traverse, c'est je trouve qu'on s'attache très vite au personnage, il est touchant et on a très envie d'en savoir plus sur cette histoire, sur ce qui se passe dans sa vie, sur comment ça arrivait à ce qu'il fasse des choses horribles et ce qui se passe vraiment dans sa tête.
Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec Lisa, on s'identifie vraiment au personnage. Et puis surtout le livre, il est facile à lire, c'est pas un vocabulaire très compliqué. Et moi je l'ai lu d'un coup, c'était facile à lire.
Ce livre est un livre assez violent pour un livre présenté à des lycéens. Comment expliquez-vous la violence de certains personnages, Madame Nine Lahut?
La violence, elle est évidente. C'est un enfant qui est élevé comme un blanc et qui est projeté ensuite dans le monde réel de Lille. Je voulais dire que j'ai beaucoup aimé ce livre parce que le schéma narratif bouscule l'idée du discours traditionnel. Il y a une alternance entre constamment la narration entre le mort, les personnes mortes et les vivantes qui nous conduisent tout le long du livre et qui aboutissent évidemment à la mort. Voilà, je voulais dire que le style est simple, les mots sont crus, il n'y a pas de fausse pudeur. Et je pense que c'est un langage actuel qui peut intéresser effectivement tous les adolescents.
Lisa, es-tu d'accord?
Oui, complètement. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse voir les pensées des morts. Je trouve que c'est très intéressant, que ça nous apporte énormément. Et c'est une construction qui est vraiment originale. J'en ai pas beaucoup vu des comme ça. Et ça change, c'est bien, c'est nouveau. Enfin, pour moi, en tout cas, personnellement. J'aime beaucoup la façon dont c'est écrit.
Je sais pas si ça vous a fait la même impression, ceux qui l'ont lu. On a l'impression que tout le livre, enfin tout au monde, se résume dans une journée, la façon dont c'est écrit. La projection et l'alternance justement de ces deux mondes nous font imaginer que tout se passe en une journée. Je pense que c'est fascinant. Voilà, je trouvais ce côté fascinant de l'intérêt. Beaucoup d'intérêt.
Roxane, que pensez-vous de ça?
Je suis complètement d'accord. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça se lit très vite, parce que c'est justement, on a l'impression que c'est en une journée. Chaque chapitre, il est par le point de vue d'un personnage différent. Et c'est très intéressant de le suivre comme ça. Et c'est pas pour autant que le livre avance pas, justement, il avance par le point de vue des personnages.
Je trouve aussi que, si on se rend psychologiquement, à un moment donné, quand Moïse se défend, il y a un dernier sursaut de volonté, c'est un petit peu ce qui se passe dans la désespérance. Soit on lutte, soit ceux qui font les expériences avec des chiens, soit ils luttent, soit ils meurent. Et là, il lutte parce qu'il revêt l'existence de son chien. C'est comme si son chien, qui a été tué justement par Bruce, se met en lui, il réagit en chien pour justement lutter et gagner ce combat qui malheureusement l'amènera à la mort, puisqu'il est obligé ensuite de céder à la pression de mourir. Je trouve la fin magnifique aussi. Les mots employés à la fin sont magnifiques.
Donc comment interprétez-vous la fin de ce roman, Lisa ?
Je trouve que la fin, pour ma part, elle était prévisible. Que c'est normal qu'il meure, que après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, et ce qui se passe après la mort de Bruce, c'est normal que tous ces événements le conduisent à la mort. Mais il est vrai que la façon dont les mots sont employés, ça donne pas cette mort comme quelque chose d'horrible. C'est le contraire, je peux pas dire que c'est beau, parce que la mort c'est pas beau, la mort ça nous sépare des gens qu'on aime, mais là c'est avec l'image de la mère, quelque part il retrouve sa mère aussi biologique, parce qu'elle est venue de la mère, et je sais pas, j'ai bien aimé la fin.
Il y a une continuité du schéma narratif à la fin, c'est-à-dire qu'il dit qu'il s'élance son corps vivant, donc il a encore cette notion de vie, il ne remonte pas, donc on ne dit pas qu'il meurt, mais c'est pareil, il y a encore cette alternance de vie et de mort jusqu'à la fin du roman.
Et moi je trouve que,
je sais pas si vous êtes d'accord,
il est arrivé par la mer et finalement il va repartir par la mer, et c'est presque un renouveau, et je trouve que c'est bien d'avoir fini le livre comme ça.
Dans ce roman, il y a le constat atroce que certains jeunes Français vivent dans des conditions ignobles. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que tout ça ne devrait pas exister. On dit que la France est un pays où tout le monde est égaux, où tout est beau. Mais dans ce livre, on voit que c'est complètement faux, qu'il existe encore des endroits où l'égalité, elle n'est pas présente. C'est les bidonvilles, c'est quelque chose d'horrible. Personne ne devrait vivre là-dedans, et encore moins des enfants. C'est pas bien.
Roxane, que pensez-vous, que penses-tu des conditions de vie ?
Moi, je suis d'accord, les conditions sont vraiment misérables. Et dans le livre, justement, elle répète que Mayotte, ça fait partie de la France et que ça ne devrait pas être comme ça.
Oui, on se raconte que malheureusement que la France de là-bas, c'est aussi la France d'ici. Bon, on pense qu'on veut des migrants et de la migration, ça c'est chacun à son opinion. On se rend compte dans quelle misère ils vivent et que c'est inacceptable de toute façon.
Et du coup, la misère n'est pas trop présente dans ce livre ? C'est pas quelque chose qui devient pesant à force ?
Elle est très présente, mais ça ne devient pas si pesant que ça. Je sais pas comment expliquer, mais c'est tourné d'une façon où c'est pas devenu pesant, en fait.
C'est le style qui n'est pas pleurnicheur, c'est l'écriture qui laisse accepter, entre guillemets. On lit et on pense plus à Moïse et qu'à la misère décrite, je pense.
Est-ce que le personnage de Moïse en lui-même vous a touché ? Ou c'est seulement les actions qu'il effectue ?
Moi, il m'a touché énormément, oui. Il m'a touché parce qu'il est toujours, il n'a jamais cessé de... L'amour en lui n'a jamais disparu. Il a toujours ce côté vers sa maman adoptive, et surtout son intérêt constant. Il a toujours été tenu par la lecture, par l'enfant et la rivière, et donc il s'est toujours référé à quelque chose qui lui plaisait. Il a toujours été guidé par ça, par l'amour de son chien, par ses lectures. Il ne s'est jamais laissé couler. Il a toujours soutenu, dans l'instruction que lui a donnée en tant que blanc, alors qu'il était noir, l'a beaucoup aidé et a développé son intellect jusqu'à ce qu'il ne puisse plus après, quand il est tombé dans la désespérance.
D'accord. Et que pensez-vous du personnage de l'éducateur venu de la métropole ?
Je ne sais pas trop quoi en penser, en fait. C'est un personnage qui est, je trouve, il est bien, il peut apporter de bonnes choses, mais il ne fait pas tout. Et c'est, comme le dit Bruce, en fait, il montre des films, il essaye d'apprendre des choses aux enfants qui vivent dans ce bidonville, mais il résout pas la misère, il fait des choses, il essaie de les aider, mais ça suffit pas. Donc voilà, après c'est quelqu'un de très gentil, et faire ce travail, ça doit pas être facile tous les jours. Donc
Roxane, ça ne suffit pas, ce travail qu'il fournit, parce que il n'a pas les moyens de le fournir en tant qu'une seule personne.
Je pense qu'il peut pas résoudre tous les bidonvilles qui existent à Mayotte, etc. C'est pas possible, une personne peut pas le faire. En tout cas, c'est vrai qu'il va leur donner ne serait-ce que de l'espoir en leur proposant des séances de cinéma ou des choses, des divertissements.
Est-ce que pour conclure sur ce livre, vous pourriez nous donner pour chaque personne un adjectif qui qualifierait le livre ?
Moi, pour Moïse, je dirais amour, si c'est un mot à rester. Pour Bruce, brutalité.
Pour les personnages principaux. Hein.
Comment ?
Pour les personnages principaux, vous inquiétez pas.
Et pour l'éducateur, un homme fade qui se laisse entraîner par... qui n'accomplit pas sa mission, qui est là pour... parce qu'il doit être là.
C'est compliqué. Il y a tellement de choses, en fait. Pour Moïse, je dirais plutôt l'intelligence, un peu. Parce qu'il est quand même vraiment très intelligent. Et je pense que sa place, elle n'était pas dans ce bidonville. Et qu'il n'aurait pas dû mourir. Il aurait pu être destiné à autre chose. L'éducateur, c'est vrai, il est bien gentil. Mais voilà, il n'a pas fait grand-chose. Donc je dirais plutôt... oui, fade aussi, c'est un bon mot. Et Bruce, c'est vrai, il est très violent, mais il a aussi vécu des choses horribles de son côté, et ça peut se comprendre que cette violence soit arrivée comme ça dans sa vie, donc je dirais triste.
Je pense que Bruce est malheureux, je pense que c'est ça son problème. Il est malheureux, il a été incompris, déçu, malheureux. C'est justement ce qu'on fait maintenant quand on reprend tous ces jeunes, qu'on les remet à niveau et tout ça. Je pense qu'il aurait fallu quelqu'un qui s'aperçoit, parce qu'il n'était sûrement pas bête non plus, hein, qu'on le remotive, et je pense que c'est un problème récurrent, hein, de toute façon.
Et toi, Roxane ?
Moi, je suis tout à fait d'accord. Bruce, il est très violent, mais c'est surtout, je pense, dû à son passé, etc. Moïse, je trouve qu'il est très attachant. On s'attache vraiment à lui, surtout dans les moments difficiles. Et oui, l'éducateur ne fait pas vraiment grand-chose.
Merci.
Salomé, quel est le livre qui sera l'objet de la suite de l'émission ?
Le troisième roman est l'affaire Léon Sadorski de Romain Slocombe. Autour de la table, pour débattre avec moi, Alex.
Bonjour.
Liam.
Bonjour.
Et madame Michaela Roque, première adjointe à Clermont, conservatrice de bibliothèque.
Bonjour. À la retraite.
Donc, est-ce que l'un de vous pourrait nous faire un court résumé de ce livre ?
Ce livre, c'est l'histoire de monsieur Léon Sadorski, qui travaille au 3e renseignement généraux et qui fait son métier de policier et qui arrête des juifs.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc.
Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, 1942.
Que pensez-vous donc du personnage principal, Léon Sadorski ? Liam ?
C'est un collaborateur, c'est un méchant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il pense qu'il est du bon côté. Il pense que les Anglais, ce sont les méchants. Il pense que les Alliés, ils ont le mauvais côté. Et les nazis, ils sont justes et ils ont raison. Et cela rend le livre assez intéressant.
Madame Rock, que pensez-vous justement de ce point de vue de méchant au final ?
Alors avant, comme je le fais d'habitude, je classe cet ouvrage. Dans cet ouvrage, il rentre dans le genre des romans noirs. C'est très à la mode. Et chaque roman, chaque genre a son critère d'écriture. Alors j'ai regardé, est-ce que ce roman, puisqu'il était quand même au prix Goncourt, est-ce qu'il correspond à tous les critères ? Alors dans les critères, il y a bien évidemment, dans le roman noir, ça se passe dans la société. C'est un roman qui doit être assez sombre. Le vocabulaire, je ne sais pas si vous l'avez noté, doit être adapté à l'époque et au sujet. Bon, en général, il y a du saignant, mais plus ça va, bon, on aime bien ça, puisqu'il y a des grands moments dans le roman noir. Donc, à ce niveau-là, il est tout à fait dans les clous. Alors, le personnage, alors je l'ai lu. Évidemment, quand on lit un livre, un moment de plaisir, on s'identifie au héros. Là, s'identifier à Sado, comme on l'appelle, c'est pas facile. Hein. Donc déjà, on est dans une situation très lourde en tant que lecteur. Et on va se poser les questions. En fait, c'est un être humain. Hein. C'est un employé zélé, très zélé, dans un poste qui, entre 40 et 42, lui permet d'avoir évidemment des petits avantages personnels. Et il en profite. Et puis, il y a le caractère de cet homme, donc comme tous les hommes, avec ses défauts. Et il profite aussi de cette situation. Alors moi, je l'avais posé en avant-première à mon collègue. Je lui ai demandé, est-ce que tu as lu ce livre jusqu'au bout ?
Oui, je l'ai lu jusqu'au bout. Et vraiment, la fin, c'est différent. J'ai aimé, mais c'est écrit, c'est un peu compliqué.
Alors moi, j'ai bien compris parce que en tant qu'adulte, puisque j'ai pas du tout malheureusement votre âge, je changerai bien d'ailleurs. Donc je pense que les deux tiers du livre tiennent en haleine, c'est très intéressant. Et on a vu avec la bibliographie qui est au fond le travail mais énorme qu'il a fait au niveau des archives, etc. Et je pense qu'à un moment donné, je l'ai lu parce qu'il fallait le lire jusqu'au bout, mais il se noie sous tous ces détails. Il y en a trop. Hein. L'enquête qui est menée, puisqu'il y a quand même, c'est une enquête policière, elle est quand même bien étouffée par tout ça. Ce que j'ai noté, c'est qu'au passage, ça m'a fait sourire, hein. Alors je l'ai noté là, c'est-à-dire que c'est le wouzou de la collaboration. Alors là, on les retrouve tous, ceux qui ont fait partie de la cagoule, aussi bien les intellectuels comme Céline qui porte encore ça sur ses épaules aujourd'hui, etc. Et Michelin, Monsavon, on a tous ces gens qui ont fait leur fortune à travers cette période qui leur a permis de faire ça. Et donc, c'est ce qui m'a un petit peu lassée.
Vous avez justement parlé d'un livre assez noir et avec beaucoup de détails. Vous ne pensez pas que c'est beaucoup pour un seul livre, qui est surtout présenté à des lycéens?
Alors moi, ça ne m'a pas touchée tellement, parce que le roman noir, c'est ça. Hein. Il doit y avoir ces éléments-là. Donc quand on aime le roman noir, ben, automatiquement, il faut trouver ce qu'on va y chercher. Hein. Donc ce qui est dérangeant, c'est que c'est le héros, dont normalement, c'est un peu nous. Ce héros, il est cruel. Donc, il se complaît, les scènes de torture, elles ne sont pas du tout ni adoucies ni rien. Donc, il y a ces scènes de torture, bon ben, on supporte ou on ne supporte pas. Hein. Il y a un côté aussi de cet homme qui m'a beaucoup dérangé, mais c'est comme ça. Moi, j'ai pensé qu'il avait un petit côté pédophile qui m'a beaucoup troublé. Pas vous ?
Moi, j'ai pas trouvé ça, je sais pas, mais...
Il y a beaucoup de paroles antisémites et de scènes très violentes. Comment en avez-vous vécu la lecture, Liam ?
C'est vrai qu'il est très raciste. Il pense que les juifs doivent être éradiqués, comme les nazis.
Alex, peut-être une idée ?
Oui, il y a beaucoup d'antisémitisme, surtout dans la propagande qui se trouve dans Paris. Mais je pense que ça reflète beaucoup l'époque où les nazis essayent de convaincre les Français que les juifs sont les méchants, ce sont des monstres, et que les Français... Certains sont déjà antisémites, mais pas tous. Donc il faut les convaincre. Ils y ont arrivé. Ils ont convaincu beaucoup de Français que les alliés, c'était le mauvais côté.
Et au final, quand on lit ce livre, on n'est pas tenté de basculer du mauvais côté, on va dire ? De passer du côté de Léon Sadorski ou on reste du côté...
Pour moi, je reste du côté des alliés. On resterait du côté des alliés puisque nous, c'est le passé. Donc on sait qui a gagné. Et aussi... Les scènes de torture et de violence contre les juifs, ça rend le côté nazi très pessimiste. Je ne dis pas que le côté des alliés était parfait aussi, mais ça le rend préférable.
C'est-à-dire, on est dans la période pétiniste. L'intérêt de ce livre, c'était de voir aussi ces deux mondes. Le monde là, de Pétain, de ceux qui sont là-haut, qui font bombance. Il y a la chanson, il y a la musique, les cabarets sont pleins. Puis il y a la queue de ces pauvres gens, etc. Moi, il me semble que c'était ce qui était très important, et là, il a réussi, c'est qu'il a l'époque, elle est très bien vue dans le vocabulaire. Et aujourd'hui, on ne dira plus jamais un youpin. Quand vos amis de Gauting viennent, on dit, il y a les Gilles qui arrivent, les Boches, c'est pas possible. On voit très bien dans cette écriture notre français qui est matiné d'allemand, Rauch, Fraulein, etc. On parle comme ça. Aujourd'hui, on ne parle plus comme ça. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que en fait, on ne peut pas adhérer, bien évidemment, à quelque chose comme ça. C'est ce qui nous met mal à l'aise, que ça ait pu exister. Alors, quand même, quand je vous ai parlé de ce petit côté pédophile, j'ai lu ce livre jusqu'au bout avec... j'en ai eu assez, et puis le livre fermé. À un moment donné, là, cette dernière page, il y a juste trois mots, là, je vais vous la lire. Elle m'a quand même... je me suis dit, là, quand même, il est bon, hein. Il est bon parce que là, la dernière page qu'il fait, donc Sado, comme on l'appelle pour abréger son nom, il jette des regards très attendris sur sa petite voisine qui a 15 ans. Des regards que moi, je n'ai pas beaucoup aimé, que je n'ai pas aimé du tout d'ailleurs. Hein. Et puis, justement, ça finit. Donc, il va la convoquer. Justement, il va la voir entre ses mains. Et les trois dernières lignes, il dit « Aujourd'hui, la petite Julie fête ses 15 ans. » Lundi 8 juin 1942, Sadorski est curieux de la voir étreiner son étoile jaune. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a tous les pouvoirs sur elle et je me suis beaucoup inquiétée. Donc après, j'ai eu une énorme compassion et beaucoup d'amour pour toutes ces petites Julies qui avaient été entre leurs mains.
Merci beaucoup. Chers auditeurs, j'espère que ces échanges vous auront donné envie de lire l'un de ces romans. A très bientôt dans une prochaine émission qui portera sur le roman vainqueur du prix Goncourt des lycéens 2016. I'm gonna go to bed.